Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Les chrétiens et les musulmans dans les pays arabes sont les peuples de leur pays. Je suis arabe. À la suite des guerres que vous avez créées, vous, Européens, vous avez divisé les Arabes en 23 pays. Et je suis considéré comme faisant partie du 23e. Je suis palestinien. Donc je porte sur mon dos toutes les difficultés de mon peuple, arabe et palestinien. Et je suis courbé sous le poids du fardeau. Tout ce qui est arabe me concerne. Tous les problèmes des musulmans sont les problèmes des chrétiens. Tous les problèmes des chrétiens sont les problèmes des musulmans. L'émigration, l'immigration. La guerre, c'est mon peuple. La guerre contre l'Irak, c'est moi. La guerre contre l'Égypte, c'est moi. La guerre contre la Syrie et le Liban, c'est moi. La guerre au Maroc, c'est moi. Et c'est pourquoi, quand je dis paix, c'est la paix pour tous les Arabes qui sont sur cette terre bénie, de l'océan jusqu'au Golfe. Je suis chrétien pour les Arabes, pour les musulmans, pour les chrétiens. Bonjour Christophe Oberlin.
Bonjour.
Alors nous sommes ensemble pour évoquer ce matin votre livre « Chrétien de Gaza », un document qui vient de paraître aux éditions Éric Bonnier, et je viens de faire une lecture. Pouvez-vous me dire qui a le père qui a dit ce texte ?
Alors il s'agit du père Manuel Moussalam, qui est une figure charismatique de Gaza. C'est un prêtre latin qui a été pendant 10 ans à Gaza. Il est maintenant retraité à Birzeit en Cisjordanie. Mais c'est quelqu'un qui a une faconde, je dirais, gaulienne, et qui en même temps est un prêtre extrêmement attentif. Il a dirigé et réformé l'une des principales écoles chrétiennes de Gaza avec énormément d'énergie, un rien d'humour aussi, ce qui ne nuit pas. Et c'est quelqu'un, là vous avez cité ses paroles, qui sont des paroles très humanistes, qui montrent sa proximité. Il baigne complètement dans le peuple arabe et palestinien, c'est cette identité sur laquelle il insiste. Mais en même temps, c'est quelqu'un, j'allais dire, qui n'est pas, en tant que latin, un suppôt de l'Occident. C'est-à-dire quelqu'un qui réagit et qui a également des réflexions politiques, des réactions politiques, jusqu'à une date très récente.
Alors nous sommes à Gaza. Dans l'imaginaire occidental, Gaza évoque le péril islamique, puisque ce minuscule territoire, est administré depuis plus de 10 ans par un parti à référence religieuse. C'est vrai qu'on n'a pas forcément une très bonne image de la bande de Gaza, ce qu'on appelle la bande de Gaza. Ce que l'on découvre avec votre livre, c'est la présence qui m'a semblé particulièrement touchante, particulièrement impressionnante, d'une toute petite communauté chrétienne. Alors je dois vous avouer, Christophe Oberlin, que j'attendais ce livre depuis plusieurs années pour évoquer la vie de ces gens. De combien de personnes parlons-nous ?
Alors là, les chiffres sont un peu réducteurs, hein. Bien entendu, c'est quelques milliers, c'est peu, mais si j'ai écrit ce livre, c'est pour montrer que c'est pas le chiffre qui compte. Et là, vous dites que vous attendiez depuis longtemps. Déjà, vous étiez au courant qu'il y avait des chrétiens à Gaza, alors que la plupart des gens ne sont absolument pas au courant. Et ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à aller là-bas, j'y vais 3 fois par an depuis 15 ans maintenant, c'est la 16e année.
Vous êtes chirurgien ?
Je suis chirurgien et j'ai tout de suite été touché, évidemment, comme médecin et puis comme homme, tout simplement par la précarité, l'humanité de ces gens que je côtoie. J'ai éprouvé très vite le besoin d'écrire. Donc j'ai écrit une demi-douzaine de bouquins à chaque fois sur un thème. Et là, j'ai pris un thème que j'ai proposé assez souvent à des journalistes. Parfois, certains journalistes osent entrer à Gaza et m'ont dit « qu'est-ce que je peux aller faire là-bas ?» J'ai dit « vous savez, il y a un sujet de télévision formidable, c'est les chrétiens de Gaza. » Parce que non seulement vous avez des personnes interviewées, vous avez une vie chrétienne qui est particulièrement, qui offre des images, hein, c'est le christianisme orthodoxe. Et il y a également un passé avec une archéologie absolument extraordinaire, avec aussi une aventure archéologique, parce que fouiller à Gaza, dans un pays en guerre, sous siège, eh bien c'est l'affaire des Dominicains de Jérusalem et du Caire, en particulier Jean-Baptiste Imbert, qui est à la fois un frère dominicain, donc un religieux, un prêtre, et en même temps un archéologue de grande renommée qui publie internationalement, donc qui a complètement la double casquette. Donc c'est un sujet où il y a à la fois des personnes exceptionnelles, et vous avez cité Manuel Moussalam, mais il y a également des images extraordinaires.
Alors je vois que votre livre est illustré avec les photographies de Serge Nègre, et c'est vrai que quand on découvre ces prises de vue dans la vieille ville de Gaza, j'ai l'impression qu'il est perché sur un tertre. Encore une fois, je suis très très étonné. Décrivez-nous un petit peu l'atmosphère de cette vieille ville.
Bah, écoutez, je suis content que vous citiez mon co-réalisateur qui est Serge Nègre, et nous avons mis avec Éric Bonnier un cahier de ses photos, et j'ai choisi ces photos de façon qu'elle interpelle. Et là, vous, effectivement, je veux dire, vous avez été interpellé. On y voit des choses qui surprennent. On y voit, par exemple, quelque chose qui ressemble à une église, hein, qui pourrait être dans le Poitou, une église du Moyen-Âge. Eh bien, c'est tout simplement aujourd'hui la principale mosquée vivante de Gaza. C'est-à-dire que cet édifice qui a été successivement un temple païen, et puis après une église byzantine, puis une mosquée à l'arrivée de l'islam, puis une cathédrale au temps des croisés, et cette architecture qu'on voit absolument typique de l'époque. Et puis à nouveau, au départ des croisés, ça fait quand même 800 ans. Depuis, c'est une mosquée, vous voyez. Et donc, il n'est pas question de détruire cet héritage. Et ça aussi, ça donne le ton un petit peu de la façon dont pensent les personnes de Gaza. Et c'est tout à fait caractéristique des relations entre chrétiens et musulmans.
Et vous dites même que dans un certain quartier, le mur mitoyen entre la mosquée et l'église permet aux communautés aussi de se rencontrer.
Alors, l'expression « mur mitoyen », je le glisse en passant, m'a été donnée par quelqu'un que je cite dans ce livre, qui est un des principaux responsables du Hamas. C'est-à-dire que le Hamas a à cœur d'avoir les meilleures relations, et il le prouve d'ailleurs avec des amitiés franches avec certaines personnes, et notamment avec Manuel Moussalam. Alors, le mur mitoyen, effectivement, est tout à fait symbolique. Et cette église, il y a une autre chose qui m'a frappé en allant à l'office de l'église orthodoxe. Eh bien, cet office n'a pas lieu le dimanche matin, figurez-vous. Vous me direz si dans d'autres pays arabes, on trouve le même exemple. Il a lieu le vendredi matin. Bah oui, c'est le week-end. Et surtout, ce qui est surprenant et interpelle, lorsque vous sortez de l'église orthodoxe le vendredi matin, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez l'appel à la prière pour la grande mosquée, pour la grande prière du vendredi. Et donc, on voit que finalement, c'est l'occasion de se retrouver sur l'esplanade. On parle chrétien-musulman, on ne fait pas la différence. Et c'est tout à fait caractéristique de l'ambiance de la vieille ville de Gaza.
Alors Christophe Oberlin, vous mentionnez tout de même des chiffres, entre 1500 et 2000 chrétiens, dites-vous. La majorité historique, disons, étant l'église grecque orthodoxe, avec une communauté latine, et avec des écoles surtout, qui sont fréquentées à plus de 70% par les enfants des familles musulmanes.
Alors tout à fait. Alors il y a ce chiffre que vous dites qui est très faible. Ce qu'il faut savoir quand même, et qui historiquement est important, l'histoire fait l'objet de la première moitié du livre, eh bien c'est que les chrétiens sont restés majoritaires à Gaza jusqu'à la fin des croisades, pendant 500 ans. Donc on a toute une série de documents qui montrent cette interpénétration, la gestion commune finalement des lieux, de la ville, de la société. Alors, la poussée actuelle, la deuxième poussée chrétienne, ou la re-christianisation, c'est dans le courant du 19e siècle, avec l'arrivée, la poussée latine, qui a suivi, il faut bien le dire, la poussée coloniale, si vous voulez. Et à travers cette nouvelle arrivée latine, eh bien, des écoles qui sont créées, qui sont extrêmement appréciées. Jean-Baptiste Imbert dit qu'on pourrait créer 3 écoles de 1000 élèves, elles seraient pleines instantanément, parce que la direction est une direction, bien qu'il y ait un souci pédagogique. Manuel Moussalam, par exemple, lorsqu'il a reconstruit complètement son école, a dit à ses enseignants, vous allez vivre une histoire passionnante, mais en même temps, vous allez travailler comme des esclaves. Bon, donc c'est un meneur, vous voyez, mais c'est un meneur qui a su faire des ouvertures. Par exemple, il a créé des écoles de danse dans son école, une école qui, bien entendu, est mixte avec garçons et filles. Et j'ai assisté à plusieurs interviews de jeunes enfants, garçons et filles, dans les écoles mixtes avec les professeurs qui étaient musulmans, chrétiens. L'immense majorité des enseignants et des élèves sont des musulmans. Et c'est assez caractéristique, quand vous demandez à un professeur combien il y a de professeurs chrétiens dans l'école, ils sont obligés de compter, ils prennent un papier, parce que finalement, ils ont oublié, vous voyez. Donc, il y a toute une série de petits signes comme ça, qui sont très profonds, et qui montrent que toutes ces personnes sont palestiniennes et luttent de la même façon.
On comprend même que c'est parfois par certains accents qu'ils se reconnaissent, par les noms, mais finalement dans la vie de tous les jours, chrétiens,
absolument, musulmans. Absolument, il y a des noms effectivement qui sont un petit peu traceurs.
La famille Tarazi, vous
alors, en parlez. La famille Tarazi qui est très présente là-bas, mais dont l'immense majorité des composantes est à l'étranger, parce qu'il y a une forte émigration, qui n'est pas caractéristique des chrétiens, mais qui est un petit peu différente, mais ça intéresse absolument toutes les franges de la population. Il y a la famille Ayad, il y a des arbres généalogiques qui remontent à très loin, il y a des documents familiaux. Donc il y a toute une recherche passionnante que j'ai menée à partir d'une série d'interviews et qui m'ont aiguillé dans différentes directions.
Un livre limpide, Christophe Oberlin, un livre avec beaucoup de style aussi, c'est ça qui est appréciable dans la lecture de votre livre Chrétien de Gaza, qui vient de paraître aux éditions Éric Bonnier. On découvre aussi, peut-être dernière petite parenthèse politique, que cette communauté chrétienne n'est pas seulement bien acceptée par les autorités politiques de Gaza, mais est d'une certaine manière protégée.
Elle est même ultra protégée parce que l'administration est parfaitement consciente que le moindre problème serait immédiatement monté en épingle, repris par les médias. Je cite une histoire qui est une histoire dramatique puisqu'il s'agit d'un assassinat, mais je la remets dans son contexte et surtout j'ai fait raconter cet assassinat d'un baptiste par
un libraire, un jeune libraire.
Voilà, d'un libraire.
Il y a une dizaine d'années.
Voilà, dans un contexte précis, j'ai fait raconter cette histoire par le leader de la communauté baptiste. Et donc ces questions, ces interrogations, ces réflexions sur le contexte, ce sont les siennes. J'essaie, dans la mesure du possible, de donner la parole au maximum. Vous voyez, je suis un scientifique. Quand on écrit un papier scientifique, on met des références, vous voyez. Et donc, tous les interviews que j'ai utilisées, ce sont des audios, ils sont à disposition, vous voyez. Et donc, c'est à travers ce que m'ont dit les personnes que je me suis fait une opinion plutôt que l'inverse.
Et vous avez rencontré quelqu'un, vous avez rencontré une professeure pour revenir sur cet aspect de protection, disons de statut particulier. Elle dit même, mais non, nous aimons les chrétiens, nous sommes avec eux, nous vivons avec eux, mais n'oubliez pas même parfois qu'ils ont plus de droits que nous, parce que eux peuvent aller à Jérusalem sur leur lieu saint.
Alors ça
m'a profondément touché.
C'est vrai que c'est très touchant, il y a beaucoup de choses touchantes lorsqu'on discute avec toutes ces personnes. Là, il y a tout un chapitre sur l'accès au lieu saint qui est un chapitre absolument essentiel. Alors évidemment, dit comme ça, d'une certaine façon, on se dit ils sont privilégiés. Mais il faut voir toutes les limitations qui sont mises et toutes les humiliations qui font vraiment partie de leur quotidien. Par exemple, vous demandez 6 mois à l'avance d'avoir accès au lieu saint pour une cérémonie ou un colloque, que sais-je. Vous demandez à l'armée, à l'armée israélienne, pas de réponse. Et puis le lendemain du début du colloque, vous recevez l'autorisation sur 2 personnes alors que vous en avez demandé 5, vous voyez, où les parents sont autorisés, pas les enfants, ou inversement. Ce sont des voyages familiaux. Quand on va à Bethléem, on y va en famille, vous voyez. Donc il y a une pression psychologique qui fait que à tout moment, les chrétiens de Gaza doivent savoir qui commande leur vie et l'accès au lieu saint n'est pas si facile que ça.
Un peu d'histoire maintenant, revenons au début du christianisme dans cette région. Il y a un personnage saint qui est très important, ce qui nous permettra aussi d'évoquer Jean-Baptiste Imbert et l'école biblique dont nous parlions en début d'émission. C'est le site de Saint-Hilarion. Alors dites-nous, c'était un lieu magistral pour la chrétienté de l'époque.
Alors c'est tout simplement le site fondateur du monachisme en Palestine. Donc c'est le premier monastère et il porte le nom d'Hilarion. Et Hilarion finalement c'est le premier des pères du désert pour lequel on a un texte écrit. Alors c'est un texte écrit qui est une biographie qui a été écrite par Saint Jérôme. Et comme tous les textes sont de cette époque, ce sont des textes hagiographiques où il faut absolument prendre avec des pincettes. Alors pour discuter tous ces faits, je me suis confronté aux vrais spécialistes, à la fois de la religion et de l'histoire, que sont les archéologues dominicains, en particulier Jean-Baptiste Imbert. Mais il n'empêche que ces textes doivent être lus, parce que ce sont des textes enluminés, avec des épisodes invraisemblables. Alors, il y a plein de miracles, il y a des choses comme ça. Mais quand on gratte un petit peu et qu'on élimine les invraisemblances, on voit qu'il y a quand même un sens à ces textes. Et en plus, Hilarion est complètement dans l'actualité, puisque le principal site monastique de Saint-Hilarion, c'est 3 basiliques successives qui ont été construites et qui ont été découvertes par Jean-Baptiste Imbert, qui fouille là-bas depuis 30 ans. Donc c'est quelque chose qui est ancré dans le présent. Alors, Hilarion, il y a plein d'épisodes. À un moment, il s'en va. Alors, il s'en va, sans doute qu'il y a eu un conflit. Donc, on a des choses à creuser.
À quelle époque sommes-nous, à peu près?
Alors, lui, il est né vers 280 et il aurait vécu 80 ans. Et c'est assez vraisemblable, étant donné tout ce qui a été raconté. C'est comme le dit très bien Jean-Baptiste Imbert, c'est le passage du paganisme au christianisme. C'est un christianisme avec dans la patte qui fait partie, qui est dans la patte païenne, avec des patients ressuscités, avec un tsunami qui est arrêté, avec des pirates qui sont arrêtés. Mais ça n'empêche que, et c'est là la réflexion des dominicains est intéressante, ils disent, écoutez, c'est pas parce que on manque de preuves, de choses absolument formelles que ça n'a pas existé, et surtout l'important, c'est la suite. Ça a été un point de départ, ça a été un fondateur, et après on a 3 basiliques successives, et on a 1500 moines qui sont là, et à partir du 5e, 6e siècle, on a des textes un peu plus fiables, puisque ce sont des échanges de lettres, vous voyez, avec des quantités de détails de la vie quotidienne qu'on n'a pas intérêt à avoir inventés, vous voyez.
Donc en vous écoutant, on comprend que Gaza était un centre spirituel et religieux dès le 4e, 5e siècle peut-être?
Alors là, c'est même certain, parce qu'il suffit de lire les lettres de Jean et Barzanuf, par exemple, pour voir que c'était d'une piété absolument extraordinaire, avec des références aux évangiles. Alors, je n'ai pas puisé un maximum dans le côté texte religieux. J'ai cherché plutôt, dans ces lettres, à extraire des témoignages de la vie quotidienne des gens, des problèmes qui se posaient avec eux, notamment de la question de la femme, hein, qui est une question très prégnante en Orient et comme partout, d'ailleurs. On le voit même aujourd'hui. Et donc, c'est intéressant de lire des textes de cette époque concernant la femme, concernant les rapports hommes-femmes, c'est passionnant.
Donc sur le présent, sur le contemporain, vous nous donnez des témoignages, ce sont des Gazaouis que vous interviewez, et vous avez fait un petit peu la même technique pour les textes historiques, vous nous replacez des descriptions de l'époque, de cette vie.
Ah ben alors, en plus, j'ai vu à l'évidence, en interrogeant ces personnes, le guide d'interrogatoire, j'ai eu un petit guide qui a été élaboré par une amie sociologue, Warda Bourget, et à travers l'interrogation un peu longue de ces personnes, j'ai retrouvé justement tous ces fils, tous ces liens qui les relient à ces racines primitives. Et on peut même dire qu'il y a des racines qui vont jusqu'à l'Égypte antique à travers certaines traditions.
Pourquoi Gaza? C'était un nœud véritablement entre l'Égypte et la Terre Sainte?
C'est un grand classique, hein, et vous le savez, dans la région de l'Orient où vous vivez.
La Sainte Famille.
On a un peu tendance à dire que partout c'est un carrefour. Bon, là ça l'est effectivement. D'abord il y a les oiseaux migrateurs qui passent par là, donc géographiquement c'est un carrefour. Puis surtout c'est une zone sans défense naturelle où en fonction des armées, en fonction des famines, il y a eu des passages. Vous voyez, et chacun de ces passages a laissé des traces. Donc de ce point de vue-là, c'est une région passionnante à étudier. Et en plus, il y a le côté physique. Gaza, c'est du sable, ce sont des dunes. Il y a la guerre maintenant depuis des dizaines et des dizaines d'années. Autrement dit, l'archéologie n'a pas pu se développer, la recherche comme elle aurait pu le faire. Les dunes se déplacent. Il y a même une archéologie sous-marine à faire. Donc c'est effectivement un lieu assez vierge à explorer.
Alors, on parlait de Jean-Baptiste Imbert, donc le père Imbert, archéologue, dit « Gaza est un pays de cocagne pour l'archéologie ». Étonnant comme réflexion.
Bah, c'est vrai, parce que pour des raisons démographiques qui sont faciles à imaginer, on construit. Gaza maintenant est urbanisé pratiquement du nord au sud, et à chaque coup de pelle, on trouve quelque chose. Alors on trouve, par exemple, il y a quelque chose qui a surgi dans l'actualité il y a 2 ans à peu près, ils ont trouvé la plus grande statue d'Apollon en métal qu'on ait jamais trouvée, 1,75 m. Donc ça fait un buzz, ça, et à juste titre. Et à chaque fois qu'on creuse, on trouve quelque chose. Et moi-même, je le raconte dans le livre, à l'occasion d'un de mes passages à Gaza, on me dit, tiens, tu sais pas qu'est-ce qui arrive, on est en train de découvrir des chapiteaux byzantins au cœur de la vieille ville de Gaza. Et je me suis rué sur place et je raconte la suite dans le livre.
Vous avez vu vous-même le chantier de la basilique Saint-Hilarion ?
Alors oui, bien sûr, j'ai vu même plusieurs fois, je l'ai vu accompagné, explicité. Et je dois dire, quand on se trouve face à certaines mosaïques byzantines, bon, ça n'a pas l'ampleur de Piazza et Armerina en Sicile, quantitativement, mais qualitativement, c'est les mêmes mains qui ont fait ces mosaïques. On retrouve exactement les mêmes techniques, la même évocation du sujet. Il y a des pièces magnifiques. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste Inver, c'est encore une performance, a réussi à mettre tout ça en caisse parce qu'il y a une vieille collaboration entre Genève, l'université de Genève et Gaza. Max van Berchem, un Genevois, avait fait une très belle étude à la fin du 19e siècle. Il a réussi à mettre en caisse un certain nombre de mosaïques de 20 mètres carrés et les exposer au musée d'art et d'histoire de Genève.
Parlez-nous du père Jean-Baptiste Imbert, vous le connaissez.
Bah là, on en a déjà un peu parlé.
Je ne désespère pas un jour de l'avoir dans notre émission.
C'est un personnage magnifique. Moi d'abord, je suis très reconnaissant parce qu'il n'est pas avare de son savoir. C'est quelqu'un qui est un pédagogue, qui en plus a un certain sens de l'humour. C'est quelqu'un qui baigne dans l'Orient comme un poisson dans l'eau, qui entretient les meilleures relations avec les Palestiniens, l'islam, etc. Il est vraiment chez lui, il est plébiscité là-bas. Et en même temps, c'est un scientifique rigoureux. Donc c'est quelqu'un dont on écoute la parole avec beaucoup de respect et d'application. Alors malheureusement, il est interdit d'entrer maintenant à Gaza depuis quelques années. Et c'est assez désespérant car l'attendent là-bas des quantités de pièces qui ont été mises à jour, qui sont collectées par Jaoudat Al-Koudari, qui est un entrepreneur palestinien qui s'est passionné depuis 30 ans pour l'archéologie palestinienne. Donc il constitue un couple indissociable, entrepreneur qui creuse, dès qu'il trouve quelque chose, il arrête tout et il fait venir les archéologues. Et ils ont fait une très belle réalisation dans la vieille ville de Gaza, c'est qu'ils ont restauré ensemble un certain nombre de vieilles maisons qui sont des maisons ottomanes et qui sont de pure merveille.
Nous étions ce matin avec Christophe Oberlin pour évoquer un très beau livre sur les chrétiens de Gaza avec les photographies de Serge Nègre, livre qui vient d'être édité aux éditions Éric Bonnier. Je remercie Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Olivier Dupré pour la réalisation de cette émission. Restez sur France Culture et nous retrouvons le service protestant. Merci.